bonjour à tous. Dernier jour de notre série consacrée à la religion et l'argent. Cette semaine, nous avons approché le fait religieux à l'aide des sciences économiques et sociales. L'observation des textes et des pratiques nous a permis de mieux saisir l'influence des croyances sur l'économie. Après avoir exploré hier les finances du Vatican, ce sont les comptes de l'islam de France que nous allons examiner. L'Hexagone compte environ 2 millions de musulmans pratiquants et à travers la question du financement du culte, c'est toute l'indépendance de l'islam de France vis-à-vis des influences étrangères qui se jouent. Vous écoutez France Culture, bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. Pour parler du financement de l'islam de France, nous avons le plaisir de recevoir Aouès Séniguer en duplex de Chambéry, politologue, maître de conférences à Sciences Po Lyon et chercheur au laboratoire Triangle. À 14h50, après l'annonce d'un deuxième confinement, quelles conséquences sur le télétravail ? Élément de réponse avec Xavier Martinet.
Sur la terre africaine, la silhouette des minarets et des mosquées manifeste hautement combien la France a tenu au respect et à la protection des croyances et des traditions religieuses des peuples musulmans qui vivent à son nom. En organisant, au départ de Rabat et de plus loin encore de tous les centres de l'Afrique française, le premier pèlerinage de la Mecque qui ait eu lieu depuis 1939, elle a donné un nouveau témoignage de son respect de l'islam. Partie au milieu de l'allégresse d'une foule enthousiaste et reconnaissante, des centaines de pèlerins marocains auxquels s'étaient joints les fidèles venus de plus loin et de l'Afrique équatoriale même, le convoi spécial s'ébranlait vers Alger, où la masse des pèlerins africains, marocains et algériens devait prendre place du navire frété spécialement par le gouvernement pour les conduire à la ville sainte.
Bonjour à Aouès Séniguer.
Bonjour.
On vient d'entendre une archive du 1er janvier 1946. Au lendemain de la guerre, la France veut montrer qu'elle respecte les religions et les croyances des peuples colonisés. Une archive qui nous rappelle que la France a une histoire ancienne avec l'islam.
Absolument. On l'aurait presque oublié aujourd'hui. La France a été une puissance coloniale musulmane. Et d'ailleurs, il y en a encore des traces aujourd'hui, puisque les musulmans sont en nombre le plus important en Europe. Et la France fait figure de premier élève en matière de présence musulmane à l'échelle européenne. C'est donc que ce lien est historique et structurel, pourrait-on ajouter.
Et on va passer, au cours du XXe siècle, à Aouès Séniguer, de l'islam en France à l'islam de France.
Oui, parce que, d'ailleurs, on pourrait revenir plus avant sur cette histoire tumultueuse. Il y a un véritable paradoxe. Le paradoxe est le suivant. C'est que la France a été, on l'a dit, un empire colonial musulman. Mais, malgré cette histoire au long cours, il n'y a pas véritablement de normalisation de la présence musulmane en France. On aura l'occasion sans doute d'y revenir au cours de l'émission. Pas de normalisation, puisque dans certains discours, je dirais, il y a comme l'idée que l'islam serait d'ordre exogène, hein, qu'il n'y aurait pas véritablement de lien intrinsèque entre la francité et l'islamité. Et ces discussions autour de l'islam de France et l'islam en France démontrent que nous ne sommes pas parvenus, je dirais, individuellement et collectivement, à normaliser cette présence.
Alors c'est effectivement une question qu'on va aborder tout au long de cette émission et il faut, pour bien comprendre, revenir à la loi de 1905 qui proclame la liberté de conscience et qui garantit le libre exercice des cultes et met fin au financement public des lieux de culte en France. Jusque-là, l'État reconnaissait 4 cultes organisés en service public, les cultes catholiques, réformés, luthériens, israélites, mais pas le culte musulman. Et avec la loi, justement, l'idée c'est que tous les cultes soient désormais traités de manière égale à Aouès Séniguer.
sans doute y a-t-il cette idée, et on en revient à ce, une fois de plus, hein, c'est véritablement un paradoxe structurant, parce que, y compris en Algérie, qui constituait trois départements français, la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État n'a jamais été appliquée, pour deux raisons principales. D'abord parce que l'État considérait qu'il fallait respecter les Algériens musulmans au nom d'une spécificité réelle ou supposée, l'appartenance en particulier à l'islam, mais aussi du fait de la volonté de certains indigènes de ne pas être complètement arrachés à l'empire de la loi musulmane. Et ce passif historique continue de se prolonger aujourd'hui, puisque les cultes présents dans l'Hexagone, notamment, je pense à l'Alsace-Moselle, avec les cultes protestants, israélites et catholiques, les musulmans ne bénéficient pas de ce rattrapage, alors que historiquement, ils pourraient en bénéficier. Mais on se heurte là à une question d'ordre constitutionnel, et la difficulté est grande.
Alors effectivement, en Alsace-Moselle, il y a trois départements métropolitains qui sont encore sous le régime du Concordat, et est-ce que ça crée des tensions dans ces territoires, étant donné effectivement que d'autres cultes, comme le culte musulman, ne bénéficient pas de ces financements publics à Westeniger ?
Je ne pense pas qu'il y ait une difficulté de la part des musulmans à reconnaître, je dirais, cette antériorité historique. Il y a peut-être chez certains le sentiment de ne pas être logé à la même enseigne, eu égard à cette histoire qu'on vient de rappeler, une histoire très schématique, mais cette histoire que beaucoup de musulmans connaissent, même s'ils ne l'ont pas vécue directement dans leur chair, mais leurs parents ont connu l'Algérie française pour un certain nombre d'entre eux. Donc il peut y avoir ce sentiment d'injustice. Mais en même temps, je ne suis pas certain que dans les proclamations ou les discours des acteurs musulmans qui s'occupent de l'organisation du culte, il y ait forcément une volonté d'accompagnement de la part de l'État, en termes, je dirais, financiers ou économiques. Et il y a deux points qu'on pourrait également discuter. Le premier, c'est que s'il y a une véritable volonté de la part de l'État d'effectuer ce qu'on pourrait appeler, faute de mieux, un rattrapage, il pourrait se créer un sentiment dans l'espace hexagonal d'une volonté de traitement spécifique des musulmans. Non seulement de la part des non-musulmans, mais aussi des musulmans eux-mêmes, qui pourraient avoir le sentiment d'être finalement soumis à l'interventionnisme de l'État. Et en même temps, la deuxième conséquence, c'est que s'il n'y a pas d'accompagnement matériel ou économique de la part de l'État, on ne peut pas invoquer à U et à Dia l'indépendance financière des musulmans qui peuvent, ce faisant, faire appel à des dons étrangers.
Alors justement, sur cette question à Westeniger, il va falloir entrer un petit peu dans le détail de ce financement de l'islam de France. Ce qu'il faut commencer par dire, c'est que comme pour les autres cultes, ce sont majoritairement les dons des fidèles qui assurent ce financement.
Il y a des modalités hybrides dans le financement des lieux de culte. Je vais en donner quelques exemples. Il y a les dons permanents d'un certain nombre de fidèles, c'est-à-dire qui décident en conscience, volontairement, hein, sur le mode du volontariat, de donner mensuellement une somme qui peut être de 5 euros, 10 euros, 15 euros, 20 euros. Il n'y a pas de modalité arrêtée. C'est mensuel, c'est mensualisé. Et auquel cas, les fidèles ont un droit de regard sur les orientations de la mosquée, dans le cadre du conseil d'administration. Vous avez des dons qui sont beaucoup plus d'ordre conjoncturel ou ponctuel.
Pendant le Ramadan, par exemple.
Par exemple, le jour du vendredi, qui est le jour saint pour les musulmans, donc il y a un afflux de fidèles le vendredi, et les responsables des mosquées, en règle générale, font appel à la générosité des fidèles, afin que ces fidèles puissent verser l'aumône, en quelque sorte, et permettre à cette mosquée de continuer de pallier à d'éventuels manques, de payer l'eau, l'électricité, etc. Donc il y a ces deux principales modalités. Et puis il y a des occasions, qui sont des occasions qui sont assez exceptionnelles pendant le mois du Ramadan, où il y a là aussi un afflux de fidèles, et les responsables de mosquées, de nouveau, font appel à la générosité des présents, des observants, en leur disant que s'ils font un don à ce moment-là, leur place dans l'au-delà sera beaucoup plus garantie. Il y a à la fois un aspect métaphysique, l'au-delà, et un aspect immédiat, ici et maintenant, de permettre à cette mosquée de continuer d'être ce qu'elle est et d'offrir un service de culte digne aux musulmans présents.
Et ce qu'il faut souligner à Westeniger, c'est que les donateurs sont plus aisés qu'auparavant.
Oui, je pense qu'il y a cela resterait à examiner plus avant. Mais on peut dire qu'il y a une évolution du statut socio-professionnel des musulmans. Il y a une mobilité sociale qui est incontestable. beaucoup de musulmans réussissent professionnellement. On a une classe moyenne supérieure, même parfois des bourgeois, qui fréquentent les lieux de culte et qui ont des moyens économiques. La question ne se pose pas tant dans le statut social de ces musulmans en mobilité sociale ou socio-économique, mais dans le fait que, comme d'autres cultes, l'islam est traversé par une forme de sécularisation. En d'autres mots, on a cette idée, à mon avis fausse dans le grand public, c'est de croire que parce que les musulmans proclament leur islamité, qu'ils fréquenteraient beaucoup plus que d'autres les lieux de culte. Certes, à des moments donnés dans la semaine, on l'a dit le vendredi, les musulmans fréquentent sans doute assidûment les lieux de culte. Mais pendant la semaine, on n'a pas forcément un afflux majeur de musulmans qui peuvent fréquenter le lieu de culte, mais de manière occasionnelle, et qui ne se sentent pas liés au destin des mosquées. Et cela marque bien une forme de sécularisation, non pas d'un renoncement à titre individuel à l'observance, mais simplement un rapport à la pratique en mosquée beaucoup plus détaché.
Alors à quoi servent ces financements? Ils servent notamment à construire des mosquées qui sont encore insuffisantes sur le territoire français. À Créteil, une nouvelle mosquée a été inaugurée en décembre 2008. Écoutez à l'époque les réactions des fidèles et des riverains recueillies par des journalistes de France 2.
Ça permet donc aux musulmans d'avoir un lieu de prière, d'être reconnus par rapport à la société, par rapport aux administrations.
Il y a un seul lieu pour tout le monde, pour les jeunes et pour tout le monde. Et ça n'a pas de prix.
C'est la preuve de la mixité, de la tolérance, et la bonne image de l'islam.
Quand vous voyez les gens du culte musulman faire leurs prières en plein air, dans des conditions précaires, j'ai trouvé que c'était une bonne occasion pour eux de pratiquer leur religion dans de bonnes conditions.
Moi, je la vois de ma fenêtre, j'habite là en plus. Et ce matin, quand je l'ai vu, avec les lumières et tout, ça me fait penser un peu à Sherazade, les mille et une nuits.
À Ouest Séniguer, les tensions liées aux prières de rue se sont apaisées avec la construction de nouvelles mosquées, même si le besoin de lieux de culte musulmans est encore important en France.
À mon sens, oui, il y avait eu une polémique il y a quelques années autour des prières de rue. En fait, beaucoup, et certains avaient exploité cet événement malheureux de manière tout à fait idéologique, c'est que si les musulmans prient dans la rue, ce n'est pas par volonté de marquage de l'espace public ou par une volonté de conquête de la République ou d'hégémonie sur la République et le bien commun, mais simplement parce qu'il y avait une absence de lieux suffisamment spacieux qui puissent accueillir dignement les musulmans de notre pays. Mais il faut reconnaître que ces événements-là sont extrêmement rares. La plupart du temps, les musulmans, par la force de leur courage, je dirais cela en ces termes, et par leur volonté de s'organiser et d'être véritablement indépendants, cherchent à construire même des édifices modestes, mais qui permettent malgré tout, aux musulmans qui le souhaitent, de pratiquer dignement leur culte et ne pas attenter à la tranquillité du voisinage. Et c'est une question centrale, peut-être qu'on l'abordera. C'est-à-dire que les musulmans, en règle générale, bien sûr qu'il peut y avoir des exceptions ici ou là, mais veulent, ces musulmans qui fréquentent les lieux de culte et ceux qui administrent les lieux de culte, souhaitent généralement qu'il y ait des conditions dignes et des conditions qui permettent au voisinage de ne pas se sentir envahi ou affecté par des comportements qui seraient des comportements en rupture avec la civilité ordinaire.
Et ces nouvelles mosquées peuvent être construites grâce notamment aux financements étrangers. Ces financements vont en grande partie vers cet objectif à Ouest Séniguer.
Ça, c'est une question très importante qui mérite d'être discutée de façon rationnelle. D'abord, je crois pouvoir dire qu'on exagère, qu'on surestime la part des dons étrangers pour les lieux de culte musulmans en France. Bien sûr qu'il y a, ces dons existent, mais il n'y a pas de lien mécanique ou automatique entre les financements étrangers et, je dirais, l'influence ou l'empreinte idéologique sur les lieux de culte en question. Je vais vous donner un exemple concret, puisque j'ai beaucoup travaillé là-dessus. La Grande Mosquée de Lyon a été financée, début des années 90, en partie par des dons de l'Arabie Saoudite, qui, comme on le sait, est une puissance, je dirais, d'orientation néo-salafiste, même si c'est en train de changer depuis au moins 2 ans. Malgré tout, le recteur de la mosquée en question, Kamel Kaptan, a toujours veillé à l'indépendance du lieu de culte en question. Il n'a jamais été établi qu'il y avait un lien mécanique entre ces dons saoudiens et l'orientation idéologique, puisque la grande mosquée de Lyon est plutôt d'orientation malikite, un rite très connu au Maghreb.
Est-ce que cela ne dépend pas si la mosquée est possédée par une puissance étrangère ou si simplement ses dons sont envoyés pour sa construction, laissant effectivement plus d'indépendance ensuite à l'imam de cette mosquée ?
Alors la distinction que vous faites est judicieuse. Je pense qu'il y a une distinction à faire effectivement entre des dons qui sont donnés ponctuellement ou conjoncturellement par des donateurs privés ou publics de pays majoritairement musulmans. Et il y a possiblement, parfois, une volonté d'empreinte idéologique ou de donner une empreinte idéologique à l'orientation théologique des mosquées financées. Mais c'est extrêmement rare.
On peut citer la mosquée d'Evry qui est possédée par le Royaume du Maroc, par exemple, et on peut aussi citer cette actualité à Ouest-Séniguère, le conseil municipal d'Angers, qui s'est opposé ce mois-ci à la cession au Maroc, justement, d'une mosquée, en estimant que cette cession ne correspondait pas à la neutralité souhaitée pour la réalisation et le fonctionnement futur de tel équipement. Fin de citation.
Oui, et alors il y a beaucoup d'aspects dans ces discussions. D'abord, il y a le fait, et d'ailleurs le président de la République l'a reconnu, pour arracher les fidèles musulmans à l'influence étrangère, il faut cesser les imams détachés. Jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. L'État français était en négociation, en interaction avec des puissances étrangères, le Maroc notamment. Donc il y avait une acceptabilité du fait que des puissances étrangères puissent accompagner, à certains égards, le culte musulman. Dès lors que cela se fait dans la transparence et qu'il n'est pas établi qu'il y a de liens malheureux entre les puissances étrangères et les musulmans de France, cela ne posait pas, n'a jamais véritablement posé de problème. Mais si l'on estime ou si l'on souhaite l'avènement d'un islam de France totalement arraché aux influences étrangères, il est vrai que la question des imams détachés se pose en toute légitimité.
On va revenir effectivement sur cette question des imams de France, mais il faut peut-être dire d'abord qu'il est assez rare à Ouest-Séniguère que les pays étrangers financent directement les associations cultuelles. Ça, c'est ce que l'on observe, que ce soit du côté du Maroc, de l'Algérie, de l'Arabie Saoudite ou de la Turquie.
Cela dépend de la structure étatique ou de la nature des régimes en question. Si c'est un régime néo-patrimonial où le public et le privé se confondent, on ne voit pas bien la distinction entre les dons privés et les dons publics. Si ce sont des États qui veillent malgré tout à l'indépendance des instances ou l'indépendance entre des acteurs étatiques et les personnes privées, effectivement, on peut y trouver là une distinction heureuse et plus pertinente. Je ne connais pas, à titre personnel, d'État. Ça peut, encore une fois, ça peut exister, hein, je ne voudrais pas être péremptoire dans ma réponse. Mais en règle générale, les musulmans de France qui administrent des lieux de culte sont jaloux de leur indépendance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait plus de lien avec les pays d'origine. Parce que selon les mosquées, vous avez une empreinte nationalitaire algérienne, tunisienne, plutôt d'ailleurs algérienne et marocaine. Mais ce lien ne se transforme pas systématiquement en une influence, je dirais, envahissante. Et d'ailleurs, l'État français reconnaît le compagnonnage de certains États amis ou alliés, comme l'Algérie et le Maroc, dès lors que ces États alliés veillent au bon fonctionnement des lieux de culte sur le territoire français pour qu'il n'y ait pas de conséquences fâcheuses en termes de relations diplomatiques.
Oui, mais c'est plus compliqué, c'est un point important effectivement à Ouest-Séniguère, mais c'est plus compliqué quand il s'agit de dons non pas d'État, mais des dons privés étrangers, et ce sont ces dons qui suscitent le plus d'inquiétude aujourd'hui.
Probablement, il est difficile de quantifier le volume de ces dons privés. Mais je rappellerai un point qui a été un point de bascule. Il y a eu deux dates très importantes. Il y a eu après le 11 septembre 2001 et les effets pervers d'un financement ou d'accompagnement financier qui pouvait se traduire ensuite par des organisations de type terroriste ou des mobilisations de type terroriste. Donc les États étrangers ont été très prudents dans le financement de lieux de culte, y compris l'Arabie Saoudite d'ailleurs. Et puis il y a eu 2015, et 2015 a été un traumatisme général, et les acteurs étatiques ou non étatiques des pays majoritairement musulmans ont également été pris, peut-être de manière conjoncturelle, mais sans doute que cet électrochoc a été important, pris de doute sur la manière dont ils pouvaient administrer en partie le culte musulman sur le territoire national, en raison des craintes d'un mésusage des dons en question. Maintenant qu'il existe des personnes privées qui financent, c'est possible, mais toujours cette crainte de financer des organisations possiblement terroristes a contraint un certain nombre de ces acteurs à être très prudent dans le type de financement des musulmans de France.
Et Bahreïn, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite ont encore récemment développé une réglementation plus stricte en matière de contrôle et de transparence des dons réalisés par des personnes privées à destination de l'étranger. Mais la difficulté à Ouest Saniguer, difficulté qu'on retrouve d'ailleurs dans les autres religions, c'est qu'il est difficile de tracer l'argent. Les financements sont assez opaques. Est-ce qu'il faudrait inventer aujourd'hui d'autres dispositifs afin de permettre une meilleure transparence? Et notamment, il y a le fait que de nombreuses associations musulmanes ont le régime de l'association 1901 et non le régime association cultuelle de 1905, ce qui suppose moins de contrôle.
En toute honnêteté, c'est une question épineuse. Il est très difficile, je n'ai pas les moyens, et l'État sans doute y réfléchit, d'être en capacité de filtrer complètement les dons ou les fonds étrangers. En revanche, ce qu'il est possible de faire, et ça c'est tout à fait réalisable, c'est de contrôler les usages de cet argent qui viendrait sur des comptes d'associations ou de lieux de culte. Quel usage en effet, ici et maintenant, dans l'espace hexagonal? Est-ce que c'est réellement pour pourvoir aux besoins de l'imam ou du lieu de culte en question, électricité, construction des murs, etc. Ou est-ce que c'est fait à d'autres fins? La véritable question est là. C'est moins l'origine de l'argent, même si c'est important. Évidemment, si on se rend compte que les organisations qui financent sont des organisations terroristes, l'État entre en matière.
Et c'est là que l'agence TRACFIN entre en jeu, l'agence chargée du blanchiment d'argent.
Absolument, mais le plus important, même si la question, celle qu'on vient de soulever, est importante, le plus important, c'est les usages et mésusages éventuels de cet argent pour financer des mobilisations peu recommandables, si je puis dire.
Et est-ce qu'il faudrait mieux dissocier les associations cultuelles qui doivent transmettre leur compte annuel à la préfecture et qui doivent et pour lesquelles est prévu un contrôle financier par le ministère des Finances et de l'autre côté les associations généralistes qui dépendent de la loi 1901?
Cette dichotomie entre la loi 1901 et 1905 était d'une certaine façon recouverte par localement par des interactions entre élus locaux et acteurs musulmans pour éviter justement, dans le cas où des musulmans ne seraient pas en capacité matérielle de constituer un lieu de culte, de leur permettre malgré tout de bénéficier d'un certain appui ou de certaines aides. Je vous donne un exemple. Parfois, des mairies pouvaient octroyer une salle sous l'égide ou sous le sceau de la loi de 1901, hein, permettant à des personnes, des individus, des groupes, au nom d'un attachement culturel, à être présents dans les lieux en question et à éventuellement pratiquer le culte. Et les élus ferment les yeux là-dessus dès lors qu'il y a une discussion pérenne entre les acteurs musulmans et les acteurs politiques. Mais il est vrai que cela peut créer ou générer des confusions. Ce qui est possible au titre de la loi de 1901 n'est pas forcément possible au titre de la loi de 1905. Mais cela existe à plein d'endroits, même si ça commence, malgré tout, par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure en début d'émission, grâce à l'émancipation et à l'autonomisation des musulmans, on n'est plus véritablement dans cette question de savoir si c'est la loi de 1901 ou 1905 qui doit s'appliquer.
Ben c'est simplement que ça leur permettrait à ces associations, si jamais elles dépendaient de la loi 1905, de bénéficier de réductions d'impôts sur le revenu, ce qui n'est pas le cas. Enfin, c'est le cas dans la loi de 1901, mais il y a des contraintes beaucoup plus fortes.
Oui, alors la loi de 1901, quand on vous prête un lieu, vous n'avez pas véritablement à assurer, je dirais, les besoins élémentaires, hein, si je ne m'abuse. Contrairement au fait de posséder des lieux ou d'être propriétaire de lieux qui demandent, c'est beaucoup plus exigeant en termes d'investissement, de suivi, d'accompagnement. Mais je vous le dis, je pense que cette façon de procéder de la part des musulmans est de plus en plus rare parce que les musulmans, et ça il faut le voir et le regarder, parviennent malgré tout, malgré les difficultés, elles sont réelles, parviennent à construire des lieux de culte et à en assurer la pérennité malgré les difficultés rencontrées de temps à autre.
Alors certains maires ont pu être accusés de contourner la loi de 1905 en profitant de ce flou juridique dont on parle, et ça pose un certain nombre de questions à Ouest Saniguer en termes de respect de la laïcité.
Oui, formellement, on ne peut que l'admettre qu'il y a une forme de flexibilité qui interroge à juste titre. Flexibilité qui est une manière de tordre une loi qui devrait s'appliquer à tous. Mais il y a aussi le principe de réalité. C'est une forme de pragmatisme. Non pas par, je dirais, par faiblesse idéologique de la part des élus locaux, comme on le dit parfois, qui seraient en lien ou qui chercheraient à tirer profit d'un rapport particulier ou privilégié avec les musulmans, mais simplement par pragmatisme et constat que des musulmans, à certains endroits, même si c'est de plus en plus rare, étaient incapables ou en difficulté pour créer des conditions dignes afin d'observer les rites consacrés par l'islam. Mais cela tend à se réduire du fait de cet avènement de nouvelles générations musulmanes qui sont à la fois qui ont un ancrage professionnel, qui vivent, je dirais, leur vie professionnelle comme chacun des Français, et qui investissent, quand ils le peuvent, une partie de leurs revenus, fût-elle infime, pour que le culte puisse être assuré dans des conditions favorables.
Alors un exemple de contournement, simplement pour bien comprendre, pour un projet de mosquée qui manque de fonds, une mairie peut par exemple financer la bibliothèque installée dans le bâtiment et donc prendre en charge une partie des travaux, mais du côté des musulmans de France, certaines voix s'élèvent en disant que les édifices catholiques construits avant 1905 faisant partie du domaine public, leur entretien est pris en charge par la collectivité publique, ce qui constitue à leurs yeux un avantage important pour l'Église de France et donc qui constitue une inégalité. Qu'est-ce que vous en pensez, Ouassanigui?
Oui, vous m'apportez, si je puis dire, un argument solide au propos que je tenais antérieurement. C'est-à-dire que le pragmatisme des élus locaux qui cherchent, j'emploie votre terme, à contourner la loi de 1905 en activant la loi de 1901 est une manière de corriger cette injustice. Donc il s'agit bien là de prendre en compte le fait que les musulmans plus tardivement installés dans l'Hexagone ont eu plus de difficultés que d'autres cultes à assurer l'autonomie des espaces cultuels. Et que par conséquent, des élus, dans un rapport de confiance avec des musulmans localement, ont cherché à corriger cette injustice avec les effets réels, les effets d'indépendance pleine et entière de l'appartenance à l'islam organisé.
Alors, comment repenser le financement du culte musulman en France? C'est notre sujet aujourd'hui et dans un instant, on va s'intéresser au rôle des imams de France et à leur formation.
France Culture, entendez-vous l'écho? Tiffaine de Rocchini.
Moi, quand j'étais petit, j'avais mal. C'était l'état de mon esprit, je suis né malade. Sur l'échelle de Richter de la misère, malade, ça vaut bien 6. Quelques degrés en dessous de là où c'est gradué. Fou. Les autres, c'est pas moi, c'est les autres, c'est pas moi, c'est les autres, c'est pas moi, c'est les autres, j'étais voleur et avant d'aller voler, je priais, je demandais à Dieu de ne pas me faire attraper, je lui demandais que la pêche soit bonne. Qu'à la fin de la journée, le liquide déborde de mes poches. Bien souvent, j'ai failli me noyer. J'ai été à 7 aussi souvent. Quand je croisais papa le matin, aller travailler avec sa 102 bleue. En rentrant le matin de soirée, je me disais, c'est un bonhomme, mon vieux. Ensuite, je me faufilais dans mes couvertures et je dormais toute la journée. Le style vampire, dormir la journée et rôder une fois le soleil couché. Le genre de prédateur à l'envers. Le genre qui, à la vue d'un poulet, meurt de peur. Je ne me suis jamais fait prendre ici. Et si j'avais été pris au keuf, j'aurais dit, les autres. Les autres, c'est pas moi, c'est les autres. Les autres, les autres, c'est pas moi, c'est les autres. Les autres, les autres, c'est pas moi, c'est les autres. Les autres, les autres, les autres. J'étais beau parleur et souriais aux filles en jean avec des grosses ceintures. Celles qui aiment bien l'odeur que dégagent les gars qui ont la réputation d'être des ordures. Le genre a juré sur la vie de sa mère dès qu'il ouvre la bouche. Rêve de BMW pour asseoir à la place du mort celle qui couche. Dans mon monde, un mec comme moi, c'est le top. J'aurais été une fille, on me traiterait de sale. Quand je croisais ma sœur avec ses copines dans le quartier, moi qui allais en soirée, je lui disais, rentre à la baraque, va faire à bouffer. Ensuite, j'allais rejoindre mes copines, celles qui me faisaient bien délirer. Celles qui, comme moi, avaient un père, une mère, peut-être bien des frères et sœurs qui s'aimaient, moi. Du genre beau parleur à l'endroit, sans foi ni loi, mais c'était pas moi le chien. Mais les autres, c'est pas moi, c'est les autres.
Les autres d'Abdel Malik, librement inspiré du titre de Jacques Brel, ces gens-là. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, et Aouez Séniguer est toujours avec nous pour parler du financement du culte musulman en France. Alors pour bien comprendre le rôle des imams de France, il faut rappeler que dans l'islam sunnite, largement majoritaire dans l'Hexagone, il n'y a pas de clergé hiérarchisé à Aouez Séniguer, et finalement chaque fidèle est en puissance un ministre du culte.
Oui, c'est une interrogation qui mérite également d'être investie. Je reprendrai la formule de Mohamed Harkoun, cet islamologue franco-algérien qui nous a quittés il y a quelques 10 ans. Il disait la chose suivante, l'islam est théologiquement protestant et politiquement catholique. En d'autres mots, comme il n'y a pas de clergé, il n'y a pas de hiérarchie, de hiérarchisation en islam sunnite, il est possible pour chaque fidèle de s'approprier, de se réapproprier les textes religieux, d'en faire une interprétation subjective, subjectivée. Politiquement catholique, car malgré tout, malgré cette absence d'autorité centrale et centralisée, il y a des magistères qui s'imposent dans l'histoire de l'islam sunnite. Avec ce paradoxe, l'absence officielle de clergé, notamment depuis la mort du prophète de l'islam en 632, mais de fait, des acteurs, des clercs qui souhaitent imposer leur interprétation de la norme religieuse musulmane idéale ou idéalisée. Et cela s'applique pour à 85% des musulmans dans le monde en général et sans doute à plus de 90% pour les musulmans de France, puisque l'islam sunnite est largement majoritaire. Mais il y a, malgré cette absence d'autorité de hiérarchie, on l'a dit, des volontés de représentation qu'il ne faut pas confondre avec la représentativité.
Alors, sur cette question de la transmission du message de l'islam par les imams, ce qu'il faut voir à Aouez Séniguer, c'est que aujourd'hui, comme on commençait à le dire tout à l'heure, les imams en France sont pour une bonne partie d'entre eux des imams détachés. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer d'où vient cette organisation et nous expliquer aussi comment et pourquoi la majorité des imams aujourd'hui sont bénévoles.
Plusieurs réponses possibles à votre question. Je dirais d'abord que l'imam, étymologiquement parlant, c'est celui qui se tient devant, celui qui prêche devant les fidèles, celui qui dirige la prière. Il y a plusieurs fonctions de l'imam. Il y a à la fois l'imam qui va accompagner les 5 prières quotidiennes dans les lieux de culte, mais aussi l'imam qui tient un prêche chaque vendredi. Et parfois, vous avez des imams qui accomplissent les 5 prières quotidiennes, mais qui n'assurent pas le prêche du vendredi. Cela dépend des rapports entre le conseil d'administration et l'imam. Les imams détachés, c'est vraiment des États qui envoient des imams en l'absence de vocation locale. Ce qui montre d'ailleurs, et c'est pourquoi cette question est capitale, ce qui montre qu'il y a une crise des vocations, y compris en islam. On parle souvent de cette montée en visibilité de l'islam dans l'espace public français, mais on oublie de dire que malgré cette visibilité, très peu de musulmans s'engagent dans la voie de l'imamat en raison d'un statut social très défavorisé, défavorable.
Donc peu de rémunération et aussi des conditions d'exercice très exigeantes et contraignantes.
Oui, c'est cela. C'est-à-dire que l'imam est à la merci du conseil d'administration. Il y a parfois des tensions. Des tensions sur le salaire, combien est-ce qu'on verse à l'imam. Des tensions sur ce qu'il souhaite faire et ce qu'il souhaite dire. Il y a des injonctions qui viennent des bureaux et de l'administration pour éviter justement qu'il y ait des loupés en termes discursifs. Il ne faudrait pas que l'imam tienne des discours en rupture avec les valeurs de la République, par exemple, et parfois des imams qui souhaitent dire des choses du point de vue politique et qui veulent aller beaucoup plus loin que simplement rester aux religieux stricto sensu, peuvent être rappelés à l'ordre par le conseil d'administration qui a un contrôle étroit sur les propos de l'imam. Et cela crée parfois des tensions. Puis, il y a autre chose aussi. Quand on parle d'imam détaché, le fait qu'il y ait des imams détachés, c'est parce que, on l'a dit, il y a une absence de vocation, mais il y a aussi une absence de formation, ici, en France, pour des imams qui seraient capables à la fois d'allier une connaissance scrupuleuse, méticuleuse des textes de l'islam, mais en même temps capables, grâce aux sciences profanes, d'avoir un recul critique par rapport aux religieux et d'être capable aussi d'amener, d'emmener les musulmans de France vers une compréhension, pourrait-on dire, éclairée de la religion musulmane dans l'espace culturel français.
Justement, à ce propos, je vous propose d'écouter le point de vue d'un étudiant de l'Institut européen de sciences humaines qui forme des imams et le point de vue de l'imam de Bordeaux, Tarek Oubrou.
Ici, on est tous censés être nés et avoir grandi en Europe, donc on connaît les us, les coutumes, les tralala et les tralali aussi. Et donc ça fait que le message qu'on peut adresser aux fidèles, il est beaucoup plus adapté à l'attente et aux besoins des fidèles que des imams qui viennent apporter du bled, comme on dit entre guillemets chez nous.
À partir des valeurs spirituelles, le discours dans la mosquée peut être un catalyseur de l'intégration dans la société. Et donc pour nous, une mosquée, c'est un territoire français. L'entrée dans une mosquée, ce n'est pas une sortie de la République. Et donc pour nous, être dans la mosquée, c'est être pleinement dans la société.
Il y a aujourd'hui une nécessité de former des imams en France, notamment pour lutter contre la radicalisation et la lecture littéraliste des textes à Ouessant-Niguère.
C'est fondamental. Chaque instance ou institution sociale en France a une responsabilité dans la promotion du bien faire et du bien vivre ensemble. Ça, c'est une certitude. Les musulmans eux-mêmes ont une responsabilité, dans les espaces consacrés au culte musulman, d'assurer à la fois une connaissance et une distance, comme je l'ai énoncé précédemment, dans l'appréhension des textes religieux, d'être capable de pénétrer ces textes religieux, d'en proposer une interprétation actuelle et actualisée, et d'être soucieux sur les velléités, parfois, qui peuvent s'exprimer auprès ou chez certains fidèles, de sécession par rapport au reste du corps français. Puisque la mosquée elle-même absorbe les débats publics franco-français. Nous n'évoluons pas dans un no man's land, dans une mosquée. Il y a c'est un sanctuaire à certains égards, mais il est aussi influencé, le lieu de culte, par ce qui se passe à l'extérieur. D'où l'importance, je pense, c'est ma conviction, d'allier à la fois un discours politique et médiatique responsable, qui pointe du doigt quand il le faut les excroissances radicales ou les périphéries incandescentes, mais en même temps responsabiliser en confiance les imams afin qu'ils puissent être très clairs sur cette nécessité d'être scrupuleusement attaché aux valeurs de la République.
Mais pour former les imams de France, revient la question des financements. Où les trouver? Alors, dès 1994, Charles Pasqua, alors ministre de l'Intérieur, proposait de taxer la viande halal pour financer le culte musulman. Idée reprise la semaine dernière par François Bayrou et expliquée dans l'extrait que vous allez entendre par Hakim El Karoui, président de l'AMIF, l'Association musulmane pour l'islam de France. On l'écoute.
Le sujet, c'est que l'argent qui va comme ça, qui est donné localement, il ne va jamais nationalement pour structurer un système de formation des imams, un système de salariat des imams, un contre-discours face au discours salafiste sur les réseaux sociaux. Tout ça n'existe pas. C'était le rôle du CFCM. Mmh. CFCM a échoué. On a besoin d'une autre organisation, notamment d'une organisation financière. Chez les juifs, comment ça marche? Le consistoire central. Il y a le kasher. Le kasher, ça ressemble au halal. Mmh. Il y a une organisation, une autorité qui fait le kasher, qui certifie et qui collecte. Chez les musulmans, il y a 3 mosquées qui ont la possibilité de délivrer des cartes pour faire le halal. Souvent, elles certifient et ensuite elles collectent. Où va l'argent? Dans les associations liées aux mosquées. Il n'y a aucun argent qui va au service de la collectivité nationale. Ça, c'est pas possible.
À Ouessant-Niguère, que pensez-vous de ce projet de redevance sur le halal?
Il est louable, mais nous nous heurtons à cette dichotomie permanente entre le moralement souhaitable et le politiquement ou socialement possible. Comment mettre sur pied une telle volonté, la concrétiser, la matérialiser? Il y a des volontés. Hakim El Karoui fait partie de ceux qui souhaitent l'avènement d'une structure qui permette plus de transparence et une organisation plus sereine de l'islam de France. Mais dans les faits, il y a de tels antagonismes, de telles diversités concurrentielles dans le champ islamique français, qu'il me paraît peut-être souhaitable, mais impossible en l'état de construire et de constituer. C'est une véritable difficulté, je dirais, à bien des égards, inextricable.
L'une des difficultés, c'est le fait qu'il n'y a pas de contrôle religieux des certifications halal.
Disons qu'il y a, se superpose une série de compétences. Celui qui est compétent religieusement ne l'est peut-être pas politiquement ou économiquement. Or, ceux qui dirigent le culte musulman ne sont pas forcément des autorités religieuses, et les autorités religieuses elles-mêmes n'ont pas forcément de mot à dire dans l'organisation des musulmans de France. Et chaque acteur de l'islam de France qui a des intérêts, notamment pour le hajj, le pèlerinage ou dans le halal, n'est pas prêt de renoncer à s'en précarer, puisqu'il y a des enjeux économiques, il faut être clair. C'est-à-dire que les acteurs musulmans, ils proclament en permanence la volonté de construire un islam de France, mais chacun est soucieux d'abord et avant tout de s'en précarer.
Alors il y a eu une autre tentative pour réformer l'organisation de l'islam de France, c'est la création de la Fondation pour l'islam de France, chargée de financer des projets éducatifs, culturels et sociaux, et aussi d'encadrer la construction des mosquées et la formation religieuse des imams. Quel bilan est-ce qu'on peut faire de cette fondation à Wesseniger?
Il est difficile de d'établir un bilan à ce stade, puisque c'est une fondation qui est récente. En revanche, la volonté ne manque pas. Ghaleb Bencher est un intellectuel, un érudit qui exprime une volonté ferme et farouche d'élever intellectuellement les musulmans de France. Mais les moyens dont dispose la FIF, la Fondation pour l'Islam de France, sont modestes ou ne permettent pas d'abattre le travail qu'il faudra abattre pour construire un islam de France totalement autonome.
Alors, en fait, Emmanuel Macron vient d'annoncer de nouveaux moyens pour la Fondation pour l'Islam de France.
Peut-être qu'ils arriveront ces moyens. En tout cas, il faut le souhaiter. Mais nous heurtons à deux. Je pense qu'il y a deux problèmes que je crois avoir repérés. Il y a à la fois une dimension centripète et centrifuge. C'est-à-dire que l'islam de France est le réceptacle de rapports de force, de lectures, d'interprétations de l'islam multiples, contradictoires, mais aussi d'une situation ou d'un rapport de l'État français qui n'a pas toujours été très transparent. Je m'explique. Quand on disait tout à l'heure qu'il fallait veiller à émanciper, autonomiser le culte musulman, pourquoi dans ce cas avoir si souvent fait appel à des États tiers ? Quid de l'autonomie, de l'indépendance des musulmans de France ? Et une fois que l'État entre en matière, avec volontarisme, il peut donner à tort ou à raison, tantôt à tort, tantôt à raison, le sentiment à des musulmans qui ne sont plus véritablement libres quant à leur rapport à l'islam.
Alors effectivement, l'une des solutions qui apparaît, c'est celle de revenir à une organisation de l'islam de France davantage locale, davantage au niveau des communautés à Wesseniger. C'est l'organisation que vous appelez de vos voeux.
Ce que je souhaite, finalement, n'a pas beaucoup d'intérêt. En revanche, le diagnostic que je modestement établir permettra, je le souhaite, une médication appropriée. Par rapport à la situation locale des musulmans, c'est un poste d'observation intéressant. D'abord, je pense qu'il faut renoncer au misérabilisme, puisque quand on parle de financement du culte musulman, on a l'impression que les musulmans ne sont pas capables, par eux-mêmes et pour eux-mêmes, de construire des mosquées et d'assurer la pérennité des lieux de culte. Je pense qu'on se trompe en abordant les musulmans de cette façon. En revanche, qu'il y ait des rapports étroits entre les élus locaux et les musulmans, cela peut s'observer dans plusieurs endroits de France. Cette proximité, ce rapport de confiance, le fait que les responsables des lieux de culte invitent des élus, pas dans une relation forcément clientéliste. Bien sûr qu'il y a parfois des arrière-plans électoraux et il ne faut pas se voiler la face. Mais le fait qu'il y ait cette confiance et que l'environnement qui accueille un lieu de culte soit rassuré, rassénéré, cela vaut beaucoup mieux ou compte beaucoup plus qu'une organisation à l'échelle nationale, centrale et centralisée dirait ou qui proclamerait le « la » de l'islam de France.
Alors, dans la volonté de réformer l'organisation de l'islam de France, Emmanuel Macron a également formulé des propositions. Il a annoncé des mesures pour lutter contre, je cite, le séparatisme islamiste. Écoutons un extrait de son discours du 2 octobre dernier au Mureau dans les Yvelines.
L'ambition de former et promouvoir en France une génération d'imams mais aussi d'intellectuels qui défendent un islam pleinement compatible avec les valeurs de la République, est une nécessité. Et donc ce dont nous sommes convenus avec le Conseil français du culte musulman, c'est que d'ici à 6 mois au plus tard, celui-ci allait finaliser un travail largement commencé depuis plusieurs mois et indispensable. Un travail qui consiste premièrement à labelliser des formations d'imams dans notre pays. Deuxièmement, à assumer une responsabilité cultuelle qui sera celle de la certification des imams. Troisièmement, d'écrire une charte dont le non-respect entraînera révocation des imams. La structuration du pèlerinage du Hajj apportera des financements nécessaires. Nous avons conduit un très gros travail avec l'Arabie Saoudite pour réglementer celui-ci. Et là aussi, un travail a été mené par le CFCM, par la MIF, pour justement bâtir une solution qui permettra d'avoir ainsi les financements et de structurer ces formations.
Le CFCM va donc assumer une responsabilité cultuelle, celle de la certification des imams, nous dit Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous en pensez, Aouez Seniguer ?
Dans ce discours, il y a avant de répondre à votre interrogation, il y a plusieurs aspects intéressants. Le fait que le Emmanuel Macron utilise séparatisme, c'est une volonté de faire la distinction avec le communautarisme, c'est un terme qu'il utilise moins, comme pour séparer le bon grain communautaire de l'ivraie séparatiste, hein, pour bien distinguer le fait que des musulmans peuvent se sentir en communauté de foi avec d'autres musulmans sans qu'ils choisissent pour autant de se séparer du reste de la société et rompre avec les valeurs de la République. Dans ce discours, il est également question d'islam des Lumières. Et c'est là, à mon avis, la difficulté pour un chef d'État d'aller plus avant sur cette question. Le chef d'État peut éventuellement créer les conditions favorables à cet islam des Lumières, mais il ne peut pas appeler de ses voeux un islam des Lumières, puisque ce serait réglementer ou régenter des visions du monde. Et je convoque à dessein cette formule de Benjamin Constant, que l'État se borne à être juste, nous nous chargerons d'être heureux. Aux musulmans de construire comme ils le souhaitent leur culte et leur vision de la religion, à la condition expresse de ne pas être en rupture de banc avec les lois de la République.
Mais d'où l'idée de passer par un certain nombre d'institutions, comme justement le Conseil français du culte musulman qui a été créé en 2003. Sauf que ce dont on se rend compte aujourd'hui à Ouessant-Niguère, c'est que beaucoup de jeunes musulmans ne se reconnaissent plus dans les institutions qui sont censées les représenter.
C'est difficile parce que je dirais que le ver était dans le fruit dès le départ, puisqu'on a cherché à organiser une religion qui est dérégulée. De fait, dérégulé, moins par volonté des musulmans de ne pas être, de ne pas s'organiser, que de fait la structuration même de l'islam sunnite. Le CFCM est un moindre mal, c'est un interlocuteur des pouvoirs publics et de l'État, et c'est important. Il représente une partie au moins des musulmans de France, mais le discours du président de la République est un discours à forte effluve, je dirais, à dimension gallicane. Quand il appelle de ses voeux un islam des Lumières, ou qu'il veut crédibiliser le CFCM, il outrepasse d'une certaine manière sa fonction, même si, bien entendu, nous comprenons le souhait de permettre à un islam de France d'émerger et d'être totalement en adéquation avec l'environnement socioculturel français.
L'objectif, c'est aussi effectivement de combattre les tendances salafistes. Le tribunal administratif de Montreuil a validé mardi la décision du ministère de l'Intérieur de fermer pour 6 mois la mosquée de Pantin qui avait relayé des propos contre Samuel Paty, ce professeur qui a été assassiné en cause, je cite, les liens avec le salafisme qu'entretiendrait la mosquée. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision à Ouessant-Niguère? Et surtout, comment comprendre que la mouvance salafiste, si cela est avéré, réussissent à infiltrer de grands lieux de culte comme celui de Pantin?
Il y a deux choses. Si un lieu de culte, des responsables, des individus, des acteurs collectifs ou individuels manquent à la loi passe. Il y a une réglementation et des lois très strictes, d'ailleurs y compris dans la loi de 1905, pour ceux qui auraient la tentation de transformer les lieux de culte en tribunes politiques. Donc les choses sont claires, les lois existent, encore faut-il les appliquer. Deuxième point sur le fait qu'il y ait un entrisme ou une progression du salafisme, c'est incontestable, c'est un fait objectif. Le salafisme a progressé sous le faisceau d'éléments à la fois structurels et conjoncturels. Conjoncturels parce qu'il y a une situation, je dirais, de l'islam de France qui est plutôt à forte tendance conservatrice, le conservatisme n'étant pas forcément le sas pour le salafisme et la violence. Et deuxième élément, c'est la dérégulation au niveau mondial de l'islam. C'est-à-dire que les idées salafistes pénètrent la France comme elles pénètrent d'autres territoires. Et de ce fait, le salafisme a progressé. Est-ce que le salafisme est majoritaire dans les lieux de culte? La réponse est non. C'est-à-dire que si les salafistes sont relativement bien organisés sur les réseaux sociaux, dans la production, la publication de textes, en revanche, ils ont du mal à pénétrer les lieux de culte, ou quand ils les pénètrent, cela crée des tensions avec les fidèles, puisqu'ils ont une lecture extrêmement punitive et prescriptive de l'islam. Et cela passe difficilement dans des lieux de culte. J'ai assisté à titre personnel à des passes d'armes qui sont allées jusqu'à des passes d'armes physiques entre des responsables de mosquées et des salafistes, parce que les responsables de mosquées ne voulaient pas que les salafistes leur imposent une vision de l'islam.
Ce que l'on comprend à West Seniger, et ce sera ma dernière question, c'est que il faut peut-être moins réorganiser le financement que recréer la confiance entre les différents acteurs. Et ça, évidemment, c'est un défi d'autant plus grand après le drame de Conflans-Sainte-Honorine et puis aussi l'attentat de Nice ce matin où un homme, je le rappelle, a tué 3 personnes dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption.
Nous sommes dans une situation d'épouvante. Samuel Paty a payé le prix fort en étant assassiné par quelqu'un qui a agi au nom d'une vision intransigeante et violente de l'islam. Et ce matin, comme vous le rappelez à juste titre, il y a eu un nouveau méfait. On n'a pas encore les mobiles, mais sans doute au nom d'une vision radicale, exclusiviste de l'islam. Et c'est à ce moment-là, précisément, qu'il faudra être le plus nuancé possible. C'est-à-dire être capable de créer les conditions de confiance aux musulmans de France qui ont une volonté, comme d'autres de leurs concitoyens, d'être vigilant sur les actes de violence au nom de l'islam, et en même temps créer les conditions de la confiance. C'est-à-dire que l'État a une responsabilité beaucoup plus importante que les gens ordinaires, puisque l'État a les moyens de sa parole. Il est relayé, il a une force d'imprégnation beaucoup plus forte. Par conséquent, responsabiliser les musulmans et créer des conditions de confiance et de dialogue entre les musulmans et les autres composantes de la société, afin qu'il n'y ait pas de soupçons permanents sur des musulmans parce qu'ils seraient visibles et qu'ils entretiendraient une forme de complicité à l'égard de la terreur. Avec un nouveau paradoxe qu'il va falloir lever. En République, on reconnaît des individus et pas des communautés. C'est important. Sauf que, dans bien des cas, et c'est malheureux, on demande à des musulmans totalement des individus, mais en même temps on leur demande de se justifier au nom d'actes commis par d'autres en raison de cette appartenance réelle ou supposée à une communauté homogène. Et ça, c'est une injonction paradoxale de laquelle il faudra sortir pour créer toutes ces conditions favorables à l'émergence de cet islam éclairé.
Merci beaucoup à West Seniger de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission, de nous avoir éclairé sur l'organisation de l'islam de France. Et merci aux techniciens de France Bleu Pays de Savoie qui ont assuré ce duplex. Tout de suite, c'est l'heure pour nous de retrouver le journal de l'écho de Xavier Martinet.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiphaine de Roquigny.
Bonjour Xavier.
Bonjour Tiphaine et bonjour à tous.
Le confinement et avec lui le retour au domicile et au télétravail a donc décidé l'exécutif. Un télétravail généralisé, dit le président, est finalement imposé aux entreprises entre aspiration et défiance, nécessité fait loi.
Oui, un télétravail généralisé et même 5 jours sur 5 dans le privé comme dans le public. C'est ce qu'a eu le temps de préciser ce matin Jean Castex devant l'Assemblée nationale. Les autorités se sont enfin décidées alors que depuis la rentrée, elles avaient pris beaucoup de gants pour ne pas réimposer le télétravail aux entreprises. Dans le protocole sanitaire qu'elles doivent appliquer jusqu'à nouvel ordre ce soir peut-être, la mesure était simplement recommandée lorsque cela est possible et elle portait sur, je cite encore, un nombre minimal de jours de travail par semaine sans préciser lequel. Et l'exécutif avait aussi maintenu une certaine ambiguïté dans ses déclarations en présentant le télétravail tantôt comme un outil de lutte sanitaire, tantôt comme un frein économique. Il y a 2 semaines, Emmanuel Macron lui-même avait écarté l'hypothèse assez sèchement, rappelez-vous.
Quand on a une résidence secondaire tout à fait sympathique et qu'on télétravaille, c'est chouette. Quand on a un appartement, que les enfants sont à la maison, qu'on a de la promiscuité, ça devient vite très dur. Et puis on a besoin d'échanger avec des collègues de travail. Donc il faut là aussi du bon sens.
Voilà, à ce moment-là, le président invitait encore à 2 ou 3 jours de télétravail par semaine.
Pourtant, certaines entreprises échappent à ces nouvelles contraintes. C'est une prise de risque sanitaire.
En effet, sont explicitement exemptés les grands services publics, comme les administrations, la poste, mais aussi l'industrie, le BTP et l'agriculture, des entreprises qui demandent des moyens lourds et qui constituent la majorité du PIB, contrairement au secteur de la culture ou des petits commerces et services directement touchés par le reconfinement. Et le milieu professionnel est effectivement le premier ou deuxième lieu de détection des contaminations, indique Santé publique France. Alors les enquêtes fines manquent cependant pour savoir comment elles se produisent, pause cigarette, repas en restaurant d'entreprise ou tout simplement transport en commun. Toujours est-il qu'Emmanuel Macron l'a dit hier, l'arbitrage est aussi économique car il veut maintenir l'activité avec plus d'intensité encore, dans la fonction publique en tout cas. La ministre Amélie de Montchalin a mentionné, elle, un objectif de 25% de salariés en télétravail fin 2020.
Reste que si le télétravail est une nécessité due à l'urgence sanitaire, son efficacité économique reste à prouver.
Oui, la crise a relancé le débat sur ses effets sur la productivité. Certains s'inquiètent d'un désengagement des salariés, d'autres dénoncent un préjugé d'employeur et une obsession hiérarchique franco-française. Pour ses partisans, le dernier argument en date est une récente étude de Harvard et du MIT qui montre un surcroît de temps de travail de plus de 48 minutes par jour au bénéfice de l'employeur. Le débat est cependant d'autant plus compliqué qu'il porte aussi sur les conséquences psychosociales du travail à distance. Parmi les acteurs réticents, dit René Bancarel dans The Conversation, des managers mais aussi de jeunes salariés qui ont besoin de socialisation et de construire un réseau professionnel.
Alors on est loin d'une généralisation du télétravail comme certains le prédisaient au moment du premier confinement ?
Eh bien ce sera l'enjeu d'une négociation sociale qui commencera vraiment lundi. Les syndicats réclament une obligation explicite pour sortir du flou juridique, mais le MEDEF refuse tout texte, dit-il, normatif ou prescriptif. Et dans le privé en tout cas, les salariés au télétravail sont passés de 20% en juin à 12%. Pourtant avec la crise, le phénomène progresse. Selon la CPME, plus de 600 accords de télétravail à 2 ou 3 jours par semaine ont été signés depuis janvier. Concernant les grandes entreprises, la Matmut a signé lundi dernier le 2 octobre. PSA et Aéroports de Paris négocient en ce moment obligation ou volontariat, nombre de jours, indemnisation des salariés. Tout cela se décide d'habitude dans chaque entreprise, mais des législations sont aussi en discussion en Espagne, Allemagne ou Royaume-Uni. Et le gouvernement des Pays-Bas, lui, a tranché. Ce seront 2 euros par jour travaillé pour le thé, café, gaz, eau, amortissement du mobilier et même du papier toilette à domicile. Il faudra donc bien négocier la qualité, car l'ethnologue Pascal Diby s'inquiète. Le télétravail pourrait être une rétro-révolution relativement à ce qu'il décrit comme le luxe de confort que sont selon lui devenus les locaux des employeurs. Hôtel 3 étoiles où on allait parfois jusqu'à avoir un dormitorium pour faire la sieste. Eh bien Tiffen, c'était le bon temps.
Et oui, pas encore de dortoir de notre côté. En tout cas, France Culture, l'idée est séduisante, mais on ne pourra peut-être pas en profiter avec le confinement. Merci beaucoup Xavier Martinet. Rolled up, tossed out, trying to understand why my life's gone south. Oh, I'm holed up, locked out, shut in, held down. There you are, right out of bed. The lucky child this my life. It's not too bad. Soon rolled up, crossed out. Roll with, without. I finally see the sun through all of those clouds. C'était Entendez-vous l'écho, une émission préparée par Marguerite Caton, Aliette Ovine, Léa Sabourin et Antoine Jourdan, en grande partie à distance, à la réalisation Félix Levaché, à la technique aujourd'hui Olivier Arnay. Demain, le revenu universel est-il la meilleure arme contre la pauvreté? Le débat opposera les économistes Denis Consigny et David Kella. On parlera aussi de vampires et de capitalisme dans Racontez-moi l'écho, votre rendez-vous fiction du vendredi. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter l'ensemble de nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France, et nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho.